voix.
Allô, Myriam.
Comment ça va aujourd'hui?
Pas pire, toi?
Oui, t'as été au cœur d'une petite controverse hier. T'avais le goût de faire une petite mise au point à nos auditeurs.
Écoute, c'est pas compliqué. J'aurais dû prendre un autre exemple. Ce que j'essayais de dire, c'est la chose suivante. C'est pas parce que t'es élu que soudainement t'as tous les droits. Bon, il y en a qui ont dit que je faisais des comparaisons inacceptables. C'est très bien. Je veux dire, je n'utiliserai plus la comparaison, mais sur le fond, je maintiens que c'est pas parce que t'es élu que t'as tous les droits.
L'esprit de ce que tu voulais dire, c'était ça. C'est pas parce que t'es élu que t'as tous les droits. Je vais m'en rappeler pour la baume, par exemple.
Myriam, t'es impayable.
OK. Donc, l'incident est clos. La chasse aux écureuils et Hitler, on parle plus de ça. OK?
Non. Merci, Myriam.
Je voulais que tu me parles un peu, parce que je sais que c'est un sujet qui t'a déjà fait bondir, de cette démarche étrange de l'archevêché de Montréal. Démarche qui est maintenant épousée par le diocèse de Québec. Là, à Québec, ils vont faire la même chose. Qui est de dire, on va faire une enquête interne dans nos archives pour voir si on a eu des dénonciations de prêtres pédophiles puis qu'on serait passé tout droit.
Mm-hmm. Écoute, l'idée de faire, ils ont appelé ça un audit, là, une vérification, est pas mauvaise. C'est mieux que rien faire. L'idée de confier ça à un ex-juge, c'est aussi en soi une bonne idée. Je veux dire, un juge est lié par un serment à vie et puis il y a une obligation de déontologie très forte. Maintenant, un juge, là, il faut que, non seulement que ce soit impartial, et je mets pas en doute le fait que Mme Trahan, à ma connaissance, je m'étais accusé d'être partial dans son métier, dans sa profession, mais il n'y a pas juste l'idée d'être impartial, il faut que ça ait l'air impartial, il faut que la perception soit impartiale. Or, on découvre petit pas ce matin que Mme la juge qui a été choisie, que je ne connais pas, mais qui m'apparaissait une personne valable et tout, ben, est également associée à une organisation, l'Ordre de Saint-Jean, qui est une organisation tout à fait acceptable, mais qui est directement relié à l'Église catholique.
Ils ont choisi une fervente catholique pour enquêter sur l'Église catholique.
C'est ça, une fervente catholique, au point qu'elle milite, pas elle milite, mais elle travaille au sein d'organisations directement reliées au Vatican. Alors là, comprends-tu que soudainement, le problème de l'apparence d'impartialité est soulevé. Moi, je sais pas pourquoi Monseigneur Lépine, qui a désigné Mme Trahan, n'a pas pensé à ça. Il était au courant. Moi, je l'étais pas. Toi, tu l'étais pas. Je savais pas qu'elle était associée à des... Et je le répète, il y a rien de mal d'être associé à l'Ordre de Saint-Jean, qui est un ordre caritatif, qui contribue... par exemple, l'ambulance Saint-Jean, c'est une créature de l'Ordre de Saint-Jean. Donc, on parle pas ici de quelque chose d'illicite, de quelque chose de condamnable.
Non, t'embauches un ami pour enquêter sur toi-même. Il y a des bonnes chances que cet ami ait le goupillon de l'absolution plus rapide.
On peut dire ça, et elle pourrait nous répondre, mais vous mettez en doute mon impartialité, tout ça. Et c'est pourquoi la notion de, non seulement l'impartialité, mais avoir l'air d'être impartial est tout aussi important que l'impartialité elle-même. Par exemple, un juge siège... Si un avocat d'une des deux parties dans lequel une cause que le juge préside, si un avocat qui a été son collègue, qui est dans le même bureau et tout ça, il se récuse automatiquement, il n'y a même pas de discussion. Pourtant, on pourrait tenir le langage de dire, ben écoute, ce sont des professionnels, puis on leur serment. Non. Dans leur pratique quotidienne, les juges eux-mêmes disent, non, ça, je peux pas toucher à ça. Ça, je peux pas toucher à ça parce que c'est le voisin où j'habite. Ça, je peux pas toucher à ça parce que c'est quelqu'un qui est relié à ma famille. Ça, je peux pas toucher à ça parce que c'est un dossier que j'ai moi-même traité à l'époque où je pratiquais le droit, même si ça fait 20 ans. Donc, je trouve qu'il y a une immense imprudence de la part de Monseigneur Lépine et d'Église catholique d'avoir choisi quelqu'un qui est associé à elle, à cette Église-là. Ouais. C'est encore une fois... Tu sais, moi, je la connais pas, Anne-Marie Trahan, je l'ai jamais rencontrée. Mais j'ai jamais lu qu'elle était mauvaise, j'ai jamais lu qu'elle était pas correcte, qu'elle était pas professionnelle. Est-ce que tu en as des échos différents?
Non, mais il me semble que si tu fais une enquête, il faut qu'elle soit confiée à quelqu'un de vraiment indépendant, pas quelqu'un qui veut absolument te sauver puis te faire le bouche à bouche, là.
Ben tu le décris très bien. Voilà le problème de perception. Je sais que tu vas être d'accord avec moi pour dire peut-être dans le fond qu'elle serait super impartiale, mais les gens vont soulever les questions comme tu viens de la soulever, puis ils ont le droit de les soulever parce que c'est ça la justice.
Puis je dois te dire que moi, toute la démarche de l'archevêché de Montréal, qui a l'air d'être cousue de bonnes intentions, là, j'ai d'immenses doutes là-dessus. Pour la bonne raison qu'au diocèse de Chicoutimi, ils ont fait une enquête de ce genre-là. Hein. Quand l'abbé Paul-André Harvey a été reconnu coupable envoyé en prison, où il est mort récemment, il y a eu des poursuites de déposer contre le diocèse. Et là, le diocèse a dit, on va vérifier dans nos archives. Parce que ce gars-là, chaque fois qu'il y avait une plainte contre lui, il le changeait de paroisse. Puis c'est ça le problème de l'Église catholique.
C'est un truc classique.
Elle a fait beaucoup ça, changer de paroisse du monde, au lieu de s'occuper des plaintes.
Ils ont fait pire, Myriam. Ils ont souvent, là, quand la plainte avait l'air vraiment dommageable, au premier coup d'œil, ils changeaient pas de paroisse, ils envoyaient en mission étrangère en Afrique.
Oui, des fois, ça finissait de même. Effectivement. Ouais. Dans le cas de Paul-André Harvey, ils l'ont voyagé de paroisse en paroisse, un peu partout dans le diocèse de Chicoutimi, là, au Saguenay puis au Lac-Saint-Jean. Et on l'a toujours mis en charge des Jeannettes. Tu sais, les petites filles, là.
Oui, bon. L'équivalent des louveteaux.
Quand il est mort en prison, avant de mourir, il a lui-même écrit qu'à plusieurs reprises, il a demandé au diocèse de le retirer. Qu'à plusieurs reprises, il a appelé à l'aide et qu'on ne l'a jamais pris au sérieux.
Ouais. Et quand
le diocèse a été aux prises avec une poursuite, ils ont dit, on a fouillé partout dans nos archives, on n'a trouvé aucune trace nulle part qu'il ait eu de la protection. Nulle part, nulle part, nulle part. Si bien que maintenant, là, s'ils refouillent leurs archives, vu qu'ils n'ont rien trouvé la première fois, il y a des bonnes chances qu'ils ne trouvent rien à deuxième.
Oui, il y a ça.
Victimes disaient à l'époque, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont assurés qu'il n'y avait rien qui traînait dans leur paperasse.
Bon, voilà. C'est à ça que je voulais en venir. C'est qu'une des faiblesses de la démarche entreprise par l'archevêché de Montréal, c'est justement, tu vas fouiller dans mes lettres, dans ma correspondance, dans mes archives papier remontant à 1950. Je sais pas, moi, mais les gens, c'est pas des fous, ce monde-là, là, ceux qui ont commis ces actes-là. Je veux dire, ils devaient savoir que c'était pas quelque chose qui devait se répandre. C'est comme combien de lettres ont été défaites, déchirant en petits morceaux, déchiquetées, passées dans la cheminée pour les mettre au feu. Combien il y en a? Quand est-ce que... Tu sais, cette affaire-là, c'est ça qui... S'ils arrivent à l'autre bout puis qu'ils disent « Bon, on a trouvé deux petites bebelles, mais c'est tout. » Mais ça veut rien dire.
Non.
Ça veut rien dire.
Non.
Et dans ce sens-là, t'as raison, c'est une drôle de démarche. Mais d'un autre côté... Si l'archevêché de Montréal a choisi cette démarche-là, bon, mais il n'y en a pas d'autres. Le gouvernement n'a jamais voulu faire une enquête publique.
Non. La police n'est jamais rentrée dans les archives des diocèses pour aller vérifier ici au Québec?
Non. Ils n'ont jamais... Tu sais, une enquête publique, ce serait terrible. Ce serait, tu sais, un équivalent de la commission Charbonneau ou de la commission Gomery ou quelque chose comme ça, avec des pouvoirs de contrainte puis d'interrogatoire sous serment, avec possibilité d'être accusé de parjure et patati et patata. Ben là, on aurait des résultats différents. C'est ce qu'ils ont fait aux États-Unis. Tu te souviens le cas de la Pennsylvanie? C'était un procureur qui avait été, procureur de la couronne, qui avait été mandaté pour monter le dossier. Alors là, il y en a trouvé 10 000 victimes, puis un peu plus de 1 000 criminels, quoi, parce que c'était des gestes criminels.
Exact.
En Irlande, la même chose est arrivée. Ils ont fait ça, ils ont fait le travail sur une base judiciaire, juridique, avec les pouvoirs de contrainte que cela confère. Tandis que là, on choisit...
Enquêtez sur vous-même, si vous trouvez quelque chose, vous appellerez la police.
Oui, c'est ça, mais... t'sais, mais d'un autre côté, je veux pas me porter à sa défense, mais qu'est-ce qu'il peut faire, Lépine? C'est pas lui qui va décider d'une commission d'enquête publique. Mais j'avancerai l'idée suivante. Il pourrait dire publiquement, le gouvernement devrait tenir une enquête publique. Mais il le fera pas.
Ils sont mal pris, là, avec l'histoire de l'évêque en France, là, qui a...
Ben oui, le cardinal Barbarin, là, qu'est-ce que, tu sais, le pape semblait engagé dans une démarche où il a utilisé des mots forts, dans le genre, n'entendez-vous pas le cri des enfants qui souffrent partout sur la planète, là, son fameux sommet. Puis là, il y a le cas de Barbarin. Barbarin, lui, c'est le cardinal de Lyon, puis il y a toute une histoire liée à ça, puis c'est un personnage très important de l'Église, bon.
Puis lui, il est accusé d'avoir couvert, protégé.
D'avoir protégé un monstre, pas quelqu'un qui a fait deux, trois petites incartades, quelqu'un qui a fait ça toute sa vie, sa vie. Puis Barbarin l'a couvert. Il l'a couvert, il l'a déplacé quand il fallait.
C'est ça.
Puis il recommençait, puis il recommençait, puis il recommençait. Alors Barbarin est trouvé coupable, il était trouvé coupable d'avoir participé à un crime, en quelque sorte. Et là, il s'en va au Vatican remettre sa démission. Le pape dit, je refuse votre démission, éminence, parce que je pense que la présomption d'innocence s'applique. Mais là, il vient de défaire, le pape François, tout ce qu'il était en train de construire depuis un bon bout de temps et en accéléré depuis 6 mois.
Parce que, dans le fond, Barbarin lui a dit, regarde, je te la donne, ma démission.
Oui.
Puis il a dit, non, je la veux pas.
c'est te dis que c'est pas fort, hein. Puis, et plus ça continue, pire que c'est. Non?
Ouais, mais c'est un peu pour ça, moi, je trouve que j'ai comme largué l'Église, là.
T'es pas la seule.
Mais c'est le problème qu'ont les Québécois. Beaucoup de Québécois, là, ont largué l'Église.
Oui.
Mais on a encore besoin de rituels. On a besoin de baptiser un enfant, pas tant parce qu'on croit à l'Église, mais parce qu'on a besoin de dire à un enfant bienvenue dans notre monde.
C'est
fait
ça,
que là, tu vois, j'ai un fils qui a eu un petit garçon là.
Oui, oui.
Là,
comment va-t-il?
Mon fils là, il est en train de passer sa confirmation parce que moi, je dis la confirmation c'est le sacrement d'adulte. Tu feras ça quand tu seras grand.
Ouais.
Fait que là, il est fâché après moi parce que j'ai pas fait faire sa confirmation quand il était plus jeune, là. Puis il est obligé de faire ça maintenant comme adulte, là. Mais parce qu'ils veulent avoir un rituel. Alors, c'est très embêtant.
Tu vois, je me souviens d'avoir découvert culturellement que je suis allé très souvent au Japon, puis une fois, j'avais passé une période assez prolongée. Et j'avais trouvé ça tellement fascinant. Les Japonais ont une religion d'État.
Ouais.
Qui s'appelle le shintoïsme, tu sais, c'est avec toutes les couleurs, puis les sabres, puis tout ça. Puis il y a le bouddhisme qui est au fond la première des religions qu'ils ont pratiquées. Alors aujourd'hui, c'est plus une religion d'État, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la nouvelle constitution a imposé la séparation de l'Église et de l'État. Un sujet à la mode ces jours-ci. Et le shintoïsme, donc, est devenu la religion qu'elle est, puis le bouddhisme, là-bas, le baptême des enfants, l'équivalent du rituel du baptême, se fait dans le shintoïsme, parce que c'est plein de couleurs, le shintoïsme. Il y a comme quelque chose de joyeux dans leur allure. Et toutes les funérailles se font sous le rite bouddhiste.
Ah ouais.
Impressionnant, hein? Et tous, là, c'est pas comme de temps en temps. Ce sont les rites. La vie, la mort. La vie, c'est dans le shintoïsme, la mort s'en va dans le bouddhisme. Extraordinaire, mais je te comprends très bien parce que moi-même, j'ai fait baptiser mes enfants puis j'étais pas quelqu'un qui allait à la messe puis tout ça. Mais c'était comme un rite civilisationnel.
C'est ça.
C'était comme...
Là, on est pognés. Si on les encourage, on a l'impression d'encourager une institution qui est pas capable d'admettre ses fautes.
Qui sont pas n'importe quelle faute, des crimes.
Puis si on les encourage pas, on a l'impression qu'il nous manque un morceau de notre identité.
De notre identité, puis de notre sérénité face à tous ces événements de la vie.
Là-dessus, bonne fin de semaine philosophique.
Salut! Myriam, la bombe aussi, ça s'applique. Salut!
Hein? Bye!